Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Patrick et Alain, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Aniane. Et aujourd'hui, nous avons également une invitée d'honneur avec Véronique Wagner, astrologue de son état.
Bonjour. Oh là là là.
Alors Véronique, j'ai pris l'horoscope du jour pour le scorpion, qui nous dit « Le climat astral devrait favoriser vos amours, mais les célibataires, attention, vous manquerez de réalisme en plaçant la barre beaucoup trop haut. La fortune pourrait vous sourire, mais encore faudra-t-il savoir la saisir. Ne bousculez pas vos habitudes, mais tentez de conserver un semblant de routine. » Alors Véronique, est-ce que tu confirmes ?
Alors absolument pas. Non, la première chose à bien définir, c'est que l'astrologie n'est pas l'horoscope. C'est vraiment des fondations à redire et à re-redire. Et non, puisque l'horoscope, en fait, c'est une ultra-vulgarisation d'un outil qui a plusieurs milliers d'années, qui est l'astrologie. Pardon. Voilà, donc je pense qu'il y aurait beaucoup de choses ici à dire. Je vais peut-être attendre de voir quelles sont vos questions, mais l'horoscope n'est pas l'astrologie.
D'accord. Alors Patrick, déjà, premièrement, je pense que c'est important de donner des définitions. Alors, est-ce que, oui, Patrick, tu pourrais nous donner la définition de l'astronomie ?
Oui, alors le mot astronomie vient du grec « astron », qui veut dire donc « étoile » ou « astre ». Et « nomi », donc « nomos », c'est simplement le fait de la loi et de nommer en fait ces astres, ces étoiles qu'on observe depuis très longtemps aussi dans le ciel.
Voilà. Et je dirais, je rajouterai aussi, puisque je suis astronome aussi, entre guillemets, c'est tout simplement, l'astronomie, c'est la science de l'observation des astres, des étoiles, et en quelque sorte tout simplement d'observer les lois des étoiles, en fait.
Comment tout fonctionne et comment ça bouge et compagnie.
Voilà. Et du coup, Véronique, je vais te poser la même question. Alors, l'astrologie, c'est quoi, finalement?
Alors, de la même manière, la racine est aussi grecque, tout pareil. Donc, astro, et d'ailleurs, et identiquement, nous parle des astres. Mais nous avons le mot logos. Logos, en grec, va définir plusieurs choses. À la fois, le fait d'un langage. Logos, c'est le langage des astres, en réalité. Et le langage qui donne du sens. Ça, c'est le mot logos. Vous retrouvez ce mot logie, par exemple, dans la psychologie, qui va donner une logique à tous les phénomènes psychiques, l'astrologie, c'est la même chose. Nous définissons comme finalement des traducteurs du sens des étoiles. Donc rien à voir effectivement avec l'astronomie. Et pourtant, c'est vrai que ce sont deux disciplines qui, antiquement, étaient liées. Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, il y a des origines communes. Donc je ne sais pas si...
Voilà, parce que c'est une des questions...
Si vous êtes au courant, vous les astronomes.
Oui, oui. Jusqu'à une certaine époque, effectivement.
Voilà, alors c'est un des points qu'on voulait aborder, c'est que... à l'époque, tous les astronomes étaient globalement des astrologues aussi, et les astrologues étaient des astronomes.
Exact,
alors
ouais.
Aujourd'hui, je ne sais pas si par exemple les astrologues, est-ce que vous observez par exemple la position des étoiles pour vous servir de... Est-ce que vous êtes astronome au sens propre du terme, ou alors est-ce que vous vous basez sur d'autres sources? Comment ça fonctionne?
Alors en fait, l'astrologie ne peut pas fonctionner sans les éphémérides astronomiques. Mmh. Donc tous les astrologues n'observe pas. Je dirais moi presque dommage. Mais il est vrai qu'à notre époque, nous n'avons plus besoin directement d'observer le ciel puisque nous bénéficions des éphémérides déjà existants pour pouvoir donner notre traduction, notre sens aux astres. Voilà. Mais par contre, effectivement, nous pouvons tout à fait faire les deux. Et moi, c'est ce que j'invite tout le monde à faire.
Oui, tout à fait. Patrick, est-ce que tu pourrais nous donner les grands concepts de l'astronomie, par exemple dans ton quotidien, comment tu pratiques l'astronomie?
Alors, on va dire que avec les instruments qui évoluent, nous on construit souvent nos télescopes nous-mêmes, donc on n'a pas forcément toujours des systèmes automatiques. Donc je vais dire que pour un astronome, je conseille même qu'il débute, il faut regarder le ciel et apprendre le ciel. Et quand je dis apprendre le ciel, c'est savoir se positionner, savoir où on se trouve. Par exemple, si un soir il y a Jupiter à observer, il faut pouvoir la trouver. par exemple. Et pour la trouver, bah, il faut savoir où c'est. C'est comme un petit village sur une carte en France. Par exemple, si vous voulez aller à, je sais pas moi, à Cabrières, hein, j'ai pas dit ça par hasard, mais bon. Bah, si vous savez pas où se trouve, par exemple, Clermont-l'Hérault qui est à côté, et savoir que Clermont-l'Hérault se trouve entre Béziers et Montpellier, bah, vous allez avoir du mal, si vous n'avez pas de GPS, à trouver Cabrières. Jupiter, ça sera pareil. Vous allez savoir, par exemple, qu'à un moment donné, elle va se trouver dans une certaine constellation. Mm-hmm. Et bien, du coup, si vous savez où se trouve cette constellation, ben, du coup, ça sera beaucoup plus facile pour la repérer. Parce qu'il y a quand même du monde hein, là-haut, hein, faut le dire. Donc, on aborde justement le nom, le terme de constellation. Et du coup, on va pouvoir en parler, puisqu'on se sert beaucoup des constellations en astronomie, mais dans le but de se repérer.
Ok, ben merci beaucoup pour pour ce petit mot. Et alors du coup, ben, Véronique, pareillement, hein, quels sont les grands concepts finalement de l'astrologie ?
Alors l'astrologie, elle ne se définit pas déjà par le même zodiaque. Je crois que c'est une première chose à nommer, puisqu'il y a une grande confusion avec les questions donc, de précession des équinoxes, voilà, hein, qui nous indique que effectivement les constellations du zodiaque ne sont pas hein, au même endroit actuellement que nous, les signes que nous utilisons. C'est normal puisque l'astrologue, lui, va utiliser le zodiaque vraiment tropical, c'est-à-dire que pour nous, nous nous basons sur qu'est-ce qui se passe ici sur Terre pour nous les humains, et donc en notion de saisonnalité. Donc par exemple, hein, tous ces signes du zodiaque que vous voyez justement dans les fameux horoscopes, hein, qui sont vraiment pas pour nous hein, une référence, voilà, hein, vont décrire en réalité différentes, si vous voulez, formes hein, de personnalité liées à l'époque de la saison où sont nées les personnes. Alors c'est extrêmement simplifié hein, ce que je vous raconte, puisque ensuite nous utilisons une carte du ciel complète avec la position des planètes au moment où chacun est né pour donner justement du sens à la vie de la personne hein, et non pas prédire comme on l'entend dans les horoscopes. Voilà, hein. Soyons bien clairs.
Ok, alors une chose, c'est vrai que nous dans le système solaire et en astronomie, on observe beaucoup les planètes et c'est vrai que les astrologues y font très souvent référence. Alors on a aussi, nous les comètes, les astéroïdes et puis surtout les étoiles et les constellations. Véronique, est-ce que en astrologie par exemple, on prend en compte les étoiles ? Est-ce qu'on prend en compte des phénomènes, très temporaires comme les comètes ? Est-ce qu'on se base aussi, par exemple, sur la position des étoiles ?
Alors non, pas les étoiles, puisque étant fixe, ça ne va pas nous intéresser. Nous, les astrologues, ce qui nous intéresse, c'est de voir la cyclicité, hein, donc l'observation des saisons, l'observation donc, de ces fameuses positions planétaires, pour un référentiel donné, une date donnée, pouvoir effectivement traduire quel est le sens de cette position des planètes pour un individu donné. D'ailleurs, ça existe aussi pour le collectif, par exemple. Hein. Donc pourquoi nous nous intéressons aux planètes ? Du fait de leur cycle, tout simplement. Et donc, pour donner par exemple des grandes références, admettons la découverte d'Uranus hein, en astronomie, tout de suite pour nous est corrélée avec un sens que l'on va donner, c'est-à-dire par exemple un principe de l'individu hein, qui va devenir, maître de son choix, de son chemin, puisque à l'époque où on a découvert Uranus, il y avait la Révolution française, il y avait la crise d'indépendance aux États-Unis. Donc, pour nous, par exemple, en astrologie, Uranus tout d'un coup va prendre sens de décrire les phénomènes lors desquels les personnes vont être plus dans un élan de liberté, par exemple. Donc d'accord. Voilà, la manière dont nous utilisons les cycles des planètes.
Oui, et puis je crois que de toute façon, la même chose s'était passée avec Neptune et Pluton.
Oui, à chaque fois qu'on découvre hein, une planète.
Voilà, donc effectivement, du coup, l'astrologie, hein, on le voit bien.
Elle s'enrichit, du coup.
Elle s'enrichit au fur et à mesure.
Elle s'enrichit. Hein. Alors, je vais quand même revenir sur une différence dont on a, entre guillemets, un petit peu évoqué. C'est la différence entre les signes du zodiaque et les constellations du zodiaque. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre de vous veut intervenir. Déjà, on pourrait peut-être simplement donner la définition de qu'est-ce que le zodiaque, finalement, parce que peut-être que nos auditeurs ne sont pas tous au fait de ce à quoi ça correspond, hormis des chevaliers. Mais...
Effectivement.
Alors, en astronomie, le zodiaque, en fait, pour faire simple, c'est une bande dans le ciel où circulent le Soleil, les planètes et la Lune.
Exact, et oui.
Alors, en astrologie, du coup
Alors, en astrologie, c'est vrai que, comme j'expliquais, hein, c'est un système qui a 4000 ans d'âge et qui représente, et qui représentait, enfin, qui représentait, qui représente toujours, donc une symbolique. Hein. L'astrologie est liée à un symbole, sans quoi nous ne pourrons plus pas traduire. Hein. Logos, encore une fois, le langage, le sens. Donc, pour nous, c'est plus, finalement, une succession de symboles qui vont signifier quelque chose de la vie de l'humain. En réalité. Donc c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes utilisations, d'où le fait qu'une grande erreur hein, qui est faite souvent et effectivement hein, souvent on reproche hein, à l'astrologie, c'est de penser qu'on utilise les constellations. Or ce n'est pas le cas justement. Mais ça reste le zodiaque en effet.
C'est le même du coup, un zodiaque. Hein, il est juste là où peut y avoir une différence, c'est dans le déjà le nombre.
Oui, alors effectivement, pour intervenir un petit peu sur ce point-là, effectivement, nous, dans notre, en astronomie, hein, nous, pour le coup, le Soleil va traverser 13 constellations. Alors, il faut quand même rappeler aussi un point, c'est qu'il y a 100 ans, eh bien, ils n'ont traversé que 12. Puisque à l'époque, hein, il y a eu un grand remaniement de, on va dire, un grand ménage qui a été fait pour savoir quelles sont les constellations officielles et notamment de définir leur délimitation, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de limite hein, donnée aux constellations. Chacun avait un peu sa propre règle. Eh bien là, on a fixé la règle et il se trouve qu'en fixant cette nouvelle règle, hein, en délimitant administrativement parlant, hein, j'ai envie de dire les limites des constellations, eh bien le Soleil s'est mis à traverser une 13e constellation.
Alors je veux juste te dire, hein, les étoiles c'était les mêmes, hein, le Soleil n'a pas changé de trajectoire, c'est juste nous les humains qui avons changé les choses, mais on a juste réorganisé dans quelle constellation appartiennent les étoiles, mais ça n'a rien changé pour la trajectoire du Soleil,
oui, et puis
ni des étoiles en place hein, qui étaient déjà là. Hein.
Quelque part, hein, j'ai un peu envie de dire, c'est un petit peu ce qu'on a fait il y a quelques années avec les régions, où finalement on a réorganisé les régions. Voilà. Et donc du coup des personnes se sont retrouvées ben, dans une autre région finalement que
changer les plaques, non, ça marche pas comme ça.
Oui, ben, ce 13e signe, hein, nous on l'entend évidemment en long, large et en travers, en tant qu'astrologue, on nous dit « Ah, il n'y a pas l'Ophiuchus ou le Serpentaire, hein,
oui,
comme on l'appelle. »
Oui,
voilà,
oui,
mais
ouais.
Effectivement, d'après ce que j'ai compris, c'est juste un découpage administratif qui a rajouté cette constellation. Or, c'est certain que pour nous, si on doit l'utiliser, on va l'utiliser de la même manière, toujours avec notre prérogative d'y donner du sens. Or, comme c'est une constellation, bon, effectivement, pour moi, ça reste, c'est pas aujourd'hui le débat, hein, ça reste discutable, puisque, d'après ce que je comprends, le Soleil, il passe très relativement, dirons-nous, et même encore, hein, de ce point de vue, étant donné que nous gardons notre perspective hein, du sens du vivant, alors on va y donner du sens, si nécessaire. Hein. C'est-à-dire que pour moi, comme c'est proche du Scorpion, comme je le dis souvent, le Serpentaire, c'est le double fond du Scorpion. C'est-à-dire que, comme c'est un signe hein, qui représente la profondeur de l'être et les personnes qui ont souvent tendance à être très secrets, très mystérieux, alors l'Ophiuchus ne sera jamais qu'une partie de plus hein, du secret du Scorpion.
Alors, j'ai juste regardé, moi, comme ça encore, sur un petit logiciel comme Stellarium ou même quand on observe le ciel. Le Soleil, des fois, aime bien chatouiller les pieds des constellations. Parce que j'ai regardé, il passe vraiment sur les ongles du Bélier. Le Serpentaire, justement, ben, il passe sur les pieds aussi. Le Lion, c'est pareil. Hein, le Soleil croise plutôt les pattes du Lion plutôt que le corps. Et, on pourrait en avoir d'autres comme ça. C'est assez amusant, je trouve. Voilà. Mais il faut juste dire qu'en astronomie, c'est pas égal du tout. C'est-à-dire que le soleil va mettre beaucoup plus de temps pour traverser certaines constellations que d'autres. Voilà. Voilà. Mais on a quand même, dans notre esprit, divisé ça en gros par mois. Quoi.
Voilà, alors,
mais c'est pas le cas. Hein. Si on observe, on se rend compte que c'est pas le cas du tout.
En astronomie, hein, typiquement, bah, par exemple, la Vierge, qui est la constellation la plus grande dans le ciel, en tout cas pour le zodiaque.
Pour le zodiaque, oui.
Eh bien, le Soleil va mettre un mois et demi pour traverser la constellation de la Vierge, alors qu'il va mettre qu'une semaine seulement pour traverser le Scorpion, hein, dont on parlait tout à l'heure.
Mais parce qu'il passe en haut, quoi. En fait, il ne le traverse pas entier, finalement.
Voilà. Alors, du coup, les signes du zodiaque, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils ont des tailles variables ou est-ce que, justement, ils sont fixes?
Non, justement, ils sont fixe, puisqu'encore une fois, nous n'utilisons pas vos constellations. Donc, je crois intéressant de dire qu'il y a des astrologues hein, qui s'y sont penchés sur la question. C'est pas quelque chose qui a été éludé à une époque. Il y a des personnes qui ont ont fait des calculs pour faire coller une astrologie dite constellationniste à cela, qui ne donnait aucun sens, en fait, de notre point de vue à nous, puisque, encore une fois, notre zodiaque référentiel, lui, à l'époque, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais a lui aussi évolué, en fait, avec les époques, représente toujours et encore donc, des fragments de saisons. Donc, pour nous, il n'y a pas de question de taille de constellation, puisque nous divisons notre sens en 12, donc avec 12 profils. Donc, il n'y a pas d'incidence, en fait.
Oui, j'ai envie de dire un petit peu de la même manière qu'on a divisé le cercle horaire en 12 portions identiques.
Exactement.
Les heures sont complètement identiques. On passe le même... Il y a la même durée entre 3h et 4h le matin qu'entre 5h et 6h l'après-midi. Donc, du coup, voilà, il y a cette notion, effectivement, de régularité, on va dire, dans
oui,
le zodiaque.
Oui, exact. Et puis, encore une fois, dans la symbolique, c'est comme, encore une fois, le logos, c'est comme un alphabet. Donc, on ne va pas donner une taille ou une durée à un alphabet, en fait, voilà, puisque c'est un symbole.
Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud et vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel avec aujourd'hui Véronique Wagner en invité. Et on parle aujourd'hui d'astrologie et d'astronomie et pour faire le lien un peu entre les deux. Alors, grande question, on disait tout à l'heure qu'on avait l'astronomie et l'astrologie qui étaient liées à l'époque. Tous les grands astrologues de l'époque étaient aussi des astrologues. Je pense notamment à Ptolémée et bien d'autres personnages très connus de l'Antiquité. Je dirais les deux, on peut les situer à peu près en naissance aux alentours de ce qu'on appelle Babylone, la Mésopotamie.
C'est
vraiment la naissance des deux. Et d'ailleurs, quand on fait des recherches là-dessus, et je m'y suis un peu penché, on a extrêmement de mal à savoir, je dirais, qui a débuté et qui a été le premier à observer. Et au final... ce qui en ressort globalement, c'est que les deux se sont faits en même temps.
Oui, puis ça a pris du temps, j'imagine, tout ça.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, on pourrait quand même se pencher un petit peu sur l'évolution. Aujourd'hui, par exemple, Patrick, est-ce que tu pratiques l'astrologie en tant qu'astronome ?
Non, pas vraiment. J'avais un a priori avec l'astrologie. C'est bien pour ça que j'étais content de rencontrer Véronique, parce que j'avais déjà discuté avec d'autres personnes, mais c'est vrai que l'astrologie qu'on voit et qu'on associe souvent à l'horoscope m'a jamais intéressé. Mais par contre, en discutant, une autre approche de l'astrologie qui me paraît plus sérieuse m'interpelle. Je suis assez curieux, donc je ne veux pas m'opposer comme ça à quelque chose sans savoir de quoi on parle. Donc je trouve ça intéressant de comprendre un peu de quoi il s'agit avant de me dire c'est pas pour moi, c'est pour moi. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose de toute façon à en tirer.
Voilà, c'est un peu mon cas aussi. C'est vrai que je pense que nous, en tant que, entre guillemets, scientifiques et personnes très cartésiennes, on avait des a priori. Mais alors, moi, c'est pareil. Quand j'ai découvert l'astrologie à travers Véronique, tout simplement, c'est vrai que s'il y a eu cette curiosité, cette ouverture d'esprit, je pense que c'est quand même un domaine très intéressant. Du coup, on peut se poser la question. Je vais prendre un exemple que souvent, on nous demande, on essaye de savoir quand est-ce que les deux se sont séparés. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est séparé? Alors, je vais prendre un autre grand personnage d'astronomie qu'on connaît bien. C'est notamment Johann Kepler qui a prouvé notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la loi des aires, la loi des orbites, etc. et la loi des périodes, les trois lois fondamentales de l'astronomie et de Kepler, donc qui est connu comme un très grand astronome, c'était aussi un mathématicien, un philosophe et un astrologue. Hein, mais oui. Johann Kepler était, travaillait aussi sur l'astrologie. Alors évidemment, après, je dirais un petit peu comme les grands personnages qui ont, on va dire, eu énormément de domaines de compétences, il y en a toujours un qui va finalement prendre le dessus.
Oui, oui, hein, oui.
Voilà.
Tout à fait.
Mais du coup, alors, est-ce que, par exemple, Véronique, tu pourrais intervenir là-dessus? Quand est-ce que s'est fait cette fracture entre les deux, deux mouvements?
Je dirais que malheureusement, on n'a pas là le temps de développer. Il y aurait long à dire hein, sur les différentes périodes, époques, épisodes entre les deux disciplines. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'à l'origine, en fait, ce n'est pas un hasard si c'était lié. C'est qu'il faudrait remonter à la pensée antique, hein, 4000 ans avant Jésus-Christ à Babylone, les gens en fait étaient encore dans le fait de se poser la question du sens à tout ce qu'ils vivaient. Donc ça n'allait pas du tout en séparation à l'époque. Hein. C'était une vision du monde qu'on appellera aujourd'hui unitaire, en fait. Et donc c'est au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution hein, de la pensée, et notamment au plus on a avancé avec, je dirais, un certain pouvoir religieux, et au plus ça a commencé à effectivement se fracturer. Et je dirais que la véritable grande fracture, hein, c'est quand même au moment de l'Inquisition, au 16e, là, voilà, l'astrologie a été reléguée, hein, comme l'alchimie d'ailleurs, au rang de science occulte, hein, mais ça portait encore le terme de science occulte. Voilà, hein, c'est-à-dire que je pense, de mon lieu, hein, sans rentrer dans de grands débats, que ça n'arrangeait pas franchement, cette pratique n'arrangeait pas franchement le pouvoir religieux. Donc voilà, ça a été un petit peu écarté. Mais pendant longtemps, hein, il y a eu, je dirais, cette corrélation et cette unité de ces deux disciplines. Voilà, hein, pour moi, un petit peu le grand historique en raccourci.
Ok, parfait. Alors, oui, et puis c'est vrai que souvent on entend d'ailleurs que l'astronomie et l'astrologie se sont fracturées du temps de Ptolémée, notamment puisque c'est Ptolémée qui a fait les deux ouvrages majeurs, on va dire, dans les deux domaines. Hein. Alors, l'Almageste, qui a été la première encyclopédie des connaissances astronomiques de tout ce qu'on avait appris en astronomie par le passé. Et bien, il a fait le même travail pour l'astrologie, donc c'est-à-dire avec Tétrabiblos, hein, l'ouvrage Tétrabiblos. Donc souvent, on dit que c'est à ce moment-là que les deux se sont séparés, mais en réalité, ça s'est séparé bien plus tard. C'est que Ptolémée avait tout simplement cette conscience que c'était deux choses complètement différentes.
Exact.
Et que même si on pouvait les relier, même si on pouvait pratiquer les deux disciplines hein, en étant à la fois astronome et astrologue, ça restait quand même deux choses différentes. D'ailleurs, on parlait de la précession des équinoxes tout à l'heure hein, pour dire qu'il y a, bon, globalement, on va faire simple, hein, un signe d'écart hein, ou une constellation d'écart entre les deux zodiaques, hein, astrologique et astronomique. Cette précession des équinoxes, elle est connue depuis l'Antiquité. Hipparque avait déjà noté cette précession des équinoxes et Ptolémée l'avait déjà indiqué dans son
Almageste. Il en avait conscience hein, quand donc, il a fait le Tétrabiblos, voilà. Il était conscient de ça. Hein.
Voilà, tout à fait.
Donc je pense qu'il avait tout à fait connaissance en fait, de quoi il s'agissait en termes d'astrologie.
Voilà. Alors, un autre point que j'aimerais quand même dire, c'est que l'astronomie et l'astrologie, là où on pourrait de nouveau la relier, entre guillemets, c'est que, tout simplement, c'est deux domaines dans lesquels qu'on pratique au niveau amateur. C'est-à-dire que moi, en tant qu'astronome, je ne suis pas astronome professionnel, hein, Patrick et moi, on est avant tout des astronomes amateurs, peut-être en étant passé avant par le stade d'amateur en astronomie.
Oui, c'est ça, c'est pas pareil. C'est bien.
Voilà, mais je dirais, c'est une des rares sciences hein, qu'on pratique en tant qu'amateur. Je dirais, on ne trouve pas de médecin amateur où on trouve pas de, je sais pas, d'autres exemples, mais bon, celui me paraît pas là. Mais alors du coup, Véronique, est-ce que l'astrologie se pratique en tant qu'amateur?
Oui, il y en a même d'ailleurs beaucoup, hein, d'astrologues amateurs. qui, comme vous, hein, vont pratiquer sans avoir forcément de formation, je dirais, complète. Alors, pour ma part, je suis astrologue professionnelle, mais évidemment, comme tout un chacun, j'ai commencé vraiment en amateur. Et donc, j'aime bien comparer toujours la pratique de l'astrologie à la pratique d'un instrument de musique. C'est-à-dire que, comme la carte du ciel, ben, pour nous, hein, c'est comme une partition, on va l'interpréter, on va lui donner du sens. Eh bien, en fin de compte, il y a autant d'astrologues amateurs qui vont, à leur niveau, avec ce qu'ils connaissent, interpréter l'astrologie, donner du sens à quelques points sur les cartes parce qu'ils ont un petit peu compris ce que ça voulait dire. Voilà, mais effectivement, il y a une marge. Hein, donc, certains vont pouvoir donner 2-3 mots sur une carte, d'autres beaucoup plus. Puis, c'est vrai que quand on pratique en professionnel, on va avoir la lecture totale de la carte du ciel astrologique.
Oui, donc ça veut bien dire qu'il y a des écoles d'astrologie.
Hein.
Oui,
il y a des écoles d'astrologie. Hein, parce qu'il y a même des diplômes, du coup.
Moi, j'ai été formée dans une école d'astrologie, réellement. Oui. Voilà, hein, donc, bien sûr, ça existe. Hein, d'ailleurs, j'ai étudié 6 ans pour ça. Donc c'est quand même pas rien.
Oui, c'est sûr.
Voilà, il y a
pas moins que la médecine.
En fait, c'est la raison pour laquelle pour nous astrologues, hein, l'horoscope, on le considère quasiment pas. En fait, hein, je veux dire, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens pour nous au regard de l'infinie, j'irais, complexité de ce que définit l'astrologie. En fait,
c'est difficile de se résumer comme ça à quelques
phrases.
Oh là
là, oui, très.
Toutes les semaines.
Oui.
Voilà. Et nous, c'est vrai que dans le domaine de l'astronomie, bien effectivement, il y a des parcours. Je dirais alors le parcours, hein, on va dire le plus suivi maintenant pour ceux qui font de l'astronomie, mais c'est pas de l'astronomie en tant que telle, c'est de l'astrophysique pour le coup.
Oui.
C'est le parcours, hein, on va dire, qui est le plus emprunté. Mais il existe aussi, hein, des écoles purement d'astronomie. Hein,
Oui, ben il faut faire la différence. Hein. C'est vrai que il y a l'astronomie, l'astrophysique. Il y a des astrophysiciens qui font des super calculs dessus, des recherches pas possibles et compagnie, mais qui n'observent pas forcément le ciel à l'œil. Hein. Donc, ça nous est arrivé à l'observatoire d'accueillir comme ça une fois un astrophysicien qui dit « Ah non, moi, je n'ai pas regardé dans un télescope. » Et puis nous, inversement, moi, je dirais qu'on est plus des montreurs d'étoiles, quelque part.
Oui, oui.
J'aime bien ce terme-là.
C'est très joli, ouais. C'est très poétique.
Oui, moi, je parle de montreurs d'ours.
Ouais. Oui, mais ça limite un peu un coin du ciel.
Ça limite, oui.
Alors qu'il y a tant d'autres bestioles à voir.
Bon, eh bien, on va s'intéresser justement à ce qu'on va pouvoir observer dans le ciel pour le mois qui va venir, avec notamment la pleine lune, hein, qui se produira le 24 février, la nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars, et puis il va y avoir un événement, alors j'ai envie de dire avec une très grande connotation symbolique. Et symbolique astrologique, hein, la conjonction, donc visuellement parlant, hein, donc les deux planètes Mars et Vénus qui seront en conjonction le 22 février. Alors Vénus sera difficilement visible, hein, maintenant le matin, elle devient de plus en plus compliquée à observer, mais ça sera finalement une manière d'à la fois dire au revoir à la planète Vénus, hein, qu'on ne verra quasiment plus à partir de la fin du mois.
Alors elle reviendra, vous inquiétez pas. Hein.
Oui, elle reviendra à la fin de l'année, hein, pas de souci là-dessus. Et ça, c'est une manière de dire bonjour aussi au retour de Mars, hein, qui fait son retour dans le ciel matinal, qu'elle se lève de plus en plus tôt, mais elle sera réellement intéressante par contre qu'à la fin de l'année.
Oui, faites patient pour Mars.
Voilà, c'est ça. Et deuxième grosse symbolique, à la fois astronomique et astrologique, enfin astrologique pour le coup, c'est le 8 mars, puisque chacun probablement le sait, c'est la journée mondiale du droit des femmes. Eh bien, il se trouve que Vénus sera accompagnée d'un très fin croissant lunaire. Et là aussi, je crois que ce sera une grosse symbolique astrologique.
Bah, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'en astrologie, la Lune et Vénus sont les deux planètes féminines. Hein. D'accord. Donc, c'est clair que si elles sont en conjonction le 8 mars, nous avons une haute symbolique astrologique ce jour-là. Et c'est un très joli exemple de comment l'astrologie donne du sens au ciel.
Mmh. Oui, oui, entièrement. Alors, Jupiter, eh bien, elle est visible sur la première moitié de la nuit. Elle reste observable encore dans de très bonnes conditions. N'hésitez pas à l'observer, notamment avec des jumelles. On voit les satellites de Jupiter. On voit leur mouvement et leur déplacement de jour en jour.
Est-ce que je peux te dire un tout petit truc vite
fait?
Alors, Jupiter, j'aime beaucoup parce que c'est une planète qui fait le tour du Soleil en gros en 12 ans.
Oui.
Il y a 12-13 constellations du zodiaque, on va dire, comme ça on fâche personne. Et du coup, elle est très facile à suivre parce que quand on sait où elle se trouve, elle est dans le Bélier en ce moment, ben, on sait que l'année prochaine, elle sera dans la constellation suivante, le taureau. Et ainsi de suite, chaque année.
Ça reste une année dans un signe.
On peut simuler, regarder en 2036, eh ben, Jupiter aura fait un tour complet autour du Soleil. Il se retrouvera quasiment au même endroit dans le bélier. Donc c'est vraiment, pour, quand on débute en astronomie, c'est la planète qui sert vraiment, je trouve, de bon repère pour bien comprendre tous ces mouvements et balayer le zodiaque, en fait. Voilà.
Oui, effectivement. Alors, le 18 mars, eh bien, Jupiter sera accompagné d'un très fin croissant de Lune. Donc là aussi, c'est aussi assez intéressant à observer. Hein. Moi, je trouve que ça fait de très jolis tableaux célestes de voir les planètes à côté de la Lune. Moi, je trouve que c'est assez
c'est
joli.
C'est très esthétique, oui.
Et donc, comme je disais, hein, il ne faut pas se priver d'observer le ciel avec des jumelles. Hein. Il y a beaucoup d'objets visibles, notamment les planètes, hein, comme Mars. Jupiter, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, Saturne et ses anneaux ne sont plus observables depuis le mois de janvier. Alors, pour les astronomes amateurs, hein, là, c'est plutôt à destination des astronomes amateurs, à partir du 10 mars, eh bien, les astronomes amateurs pourront tenter le marathon Messier, c'est-à-dire observer les 110 objets du catalogue de Messier, dans la même nuit, hein, oui, évidemment.
J'ai jamais réussi, je me suis toujours endormi avant.
Et puis, on va terminer sur une petite éphéméride astrologique, pour le coup. Véronique, tu confirmeras peut-être ou pas, mais aujourd'hui, hein, donc, nous allons rentrer dans les poissons, et ce sera jusqu'au 20 mars, du coup.
Effectivement, c'est ça, c'est que nos signes du zodiaque, eux, hein, débutent toujours, vous remarquerez hein, d'ailleurs, y compris sur les horoscopes, autour de 19, 20, 21, ça ne sont pas du tout des hasards, hein, c'est qu'effectivement, comme je le disais, pour nous, le zodiaque est divisé donc en 4 saisons et 3 signes donc par saison, et donc effectivement ici, nous débutons le troisième signe de l'hiver, effectivement, qui nous amènera jusque eh bien, notre cher bélier, qui va redémarrer le printemps, hein, au 20 ou 21 mars, voilà. Je n'ai pas regardé cette année, mais...
C'est le 20 mars.
Le 20, voilà, tout à fait.
Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à Véronique pour sa présence. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs. On se retrouvera donc le lundi 18 mars pour la prochaine émission, dont nous ne connaissons pas encore la thématique. Eh bien, Patrick et Véronique, je vous laisse les mots de la fin.
Ben, bonnes observations pour ceux qui aiment traîner un peu tard le soir.
Et merci encore pour l'invitation. Je pense que cette émission est historique.
Oui.
Car je ne pense pas qu'un astrologue ait été invité à converser avec des astronomes. Donc, merci pour votre ouverture.
De rien, avec grand plaisir.
Merci.